Bonjour et bienvenue à chacun. Habitué de la paroisse de Mérin ou du Mandement, habitué de l'église évangélique, bienvenue à chacun. Et si vous êtes de passage, pas habitué, en recherche, ben soyez encore plus particulièrement les bienvenus. De la part de l'équipe qui a préparé ce culte, merci à chacun, Naïdé, Bertrand, l'équipe Louange, la Sono derrière et tout ça. Mais surtout, de la part de Dieu, le Père, créateur de toutes choses, du Fils Jésus-Christ, qui a partagé notre condition, qui est mort et ressuscité, et du Saint-Esprit, qui vient habiter et travailler en nous. Alors je vous invite à prier. Merci de nous accueillir, Seigneur, tel que nous sommes. Merci pour ta patience et ta bienveillance envers nous. Que tu nous gardes dans ta présence et que tu nous conduises toujours plus proche de toi par ton esprit. Que tu nous enseignes, aide-nous à mieux te connaître pour que nous puissions nous réjouir en ton nom, en ta présence, vivre ta grâce et ta paix. Mais aussi que nous puissions porter du fruit autour de nous, être des témoins, apporter ton amour, ta grâce et ta paix à notre prochain, dans nos familles, auprès de nos voisins, nos amis, nos collègues. Alors Seigneur, si tu nous accueilles tels que nous sommes, que tu nous permettes aussi de grandir en toi et d'avancer sur les chemins que tu ouvres pour nous. Amen. Alors ce matin, nous nous rapprochons de la rentrée scolaire. Je ne sais pas si vous vous réjouissez ou pas. Pour ma part, je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, pour l'Église, il s'agit du dernier culte de l'été, en commun, protestant et évangélique, et du dernier sur notre thématique avec les arbres de la Bible. Et pour aujourd'hui, ce n'est pas le plus grand qu'on verra aujourd'hui, hein, puisqu'il s'agit d'un buisson. Mais on sait bien que Dieu ne se révèle pas que dans les grandes choses, justement. Alors, avant de continuer à louer ce Dieu qui ne se révèle pas que dans les grandes choses et qui pourtant est si grand, je rappelle juste pour les enfants, il y a Prisca qui est à disposition. Pour l'instant, elle est là, mais elle est prête à descendre. Pour s'occuper des enfants, des jeunes, etc. Alors, je ne sais pas si, dès maintenant, vous pouvez descendre, sinon la porte sera ouverte en bas dans le couloir. Voilà, alors je laisse la place à Xavier pour continuer avec la louange.
Bonjour. Alors, c'est bien été dit par Tidjo, je ne vais pas rajouter. Simplement qu'on puisse entrer ensemble dans ce temps de louange, dans ce culte. Je vous invite à entonner avec nous aussi ces chants. Cette semaine, ça a été une belle semaine, magnifique, avec des montagnes. Bon, il y a eu un petit peu de pluie, c'est vrai. Mais pour moi, c'est quand même enrichissant de voir cette pluie arriver. Ouais, qu'on puisse rentrer, qu'on puisse comprendre aussi ces chants, avec rentrer dans son amour. Je vous invite simplement à être vous-même à ce moment-là. On a une petite équipe un peu restreinte aujourd'hui, alors on va essayer de faire aussi un peu au mieux. Moi, on va commencer par ce chant qui dit « Entendons Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi ».
Et nous vous proposons de le chanter de la manière suivante. D'abord, on va le chanter en entier tous ensemble, et puis ensuite, on va faire un canon. Ce qu'on vous propose, c'est que donc à la deuxième reprise du chant, l'équipe qui est à ma droite suivra Xavier. L'équipe du centre là, suivra Alexia. Et puis ceux qui sont à ma gauche partiront avec moi. Donc à chaque chant, ce chant a trois parties. À chaque changement, ben, une équipe part. Voilà.
Alors je vous invite à vous lever.
Thank you. ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom,
continue avec ce chant qui dit Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour grand, infini. Merci encore de nous montrer ton grand amour à la croix. Merci pour ça t'a payé. Je ne méritais pas tout ça. Et je te remets cette suite de culte. Que tu viennes me montrer, nous montrer encore ton amour.
Si les enfants veulent descendre à ce moment, ils sont les bienvenus avec Prisca. Nous continuons le culte avec les lectures. Deux lectures, une première, j'ai parlé du buisson ardent, une première dans Exode 3, les versets 1 à 15. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hévites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. »
Et la deuxième lecture, c'est dans Philippiens 2, les versets 1 à 11. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelle magnanimité, comblez ma joie, étant bien d'accord. Ayez un même amour, un même âme, une seule pensée. N'en faites rien pour ambition personnelle ni par vanité. avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu du rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé sur lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père.
Je vais prier encore pour Bertrand. Seigneur, merci d'avoir gardé Bertrand dans sa préparation, de l'avoir inspiré, de l'avoir conduit jusque ici aussi pour nous et pour qu'il puisse partager ça, c'est ce qu'il avait à cœur de nous partager. Merci pour ça. Et que tu viennes travailler nos cœurs au travers de ça, et que tu nous fasses grandir dans ta connaissance. Amen.
Merci Joël. Bonjour à vous. Il y a des terres où l'on se sent toujours un peu étranger, immigrant, en visite. Je dirais pas que c'est moi ici aujourd'hui, mais je pense plus à ces terres arides, trop vastes, peu hospitalières. À part quelques rares arbres, près de rares points d'eau, les habitants réguliers sont plutôt des cailloux et de temps en temps des buissons qui vont s'accrocher de toute leur force et de toutes leurs racines à chaque parcelle d'humidité. Ils vont la pomper, cette humidité, et la faire remonter jusqu'aux extrémités de leurs feuilles ou de leurs épines. Il y a aussi quelques autres habitants, animaux bipèdes, plus ou moins nomades. Et dans ce sol, ce climat et ces buissons à rebrousse-poil, ils sont parfois eux-mêmes un peu rudes aussi. J'ai pas vu souvent sur les prospectus qu'on voit dans les belles, les agences de voyage. Donc, j'ai pas vu très souvent ces terres désertiques avec des buissons mal rasés figurant sur les photos. Bah, c'est vrai que c'est des images qui n'évoquent guère l'abondance, la prospérité. C'est plutôt la survie, la précarité, la solitude. Et quand même peut-être à espérer la solidarité, parce qu'on est tous logés là dans ces lieux-là, à la même enseigne, toutes étoiles. Qu'il y ait une sécheresse encore plus grande, ou un éclair de foudre, et les buissons partent en poussière. Alors que dire des humains ? Alors voilà, chers amis, que celle ou celui parmi nous qui ne s'est jamais senti dans cet état de précarité, d'incommunicabilité, eh bien, qu'il ou elle passe plus loin, vers des textes bibliques plus verdoyants, au pied de grands arbres près de courants d'eau, qui expriment à merveille la majesté et la providence du Dieu unique, qui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, vous et moi. Mais si je vous pose la question, Dieu est-il seulement présent dans les écritures verdoyantes ? Je laisse vos cœurs répondre. Et je crois que nous sommes probablement d'accord. Et venons-en alors à cette terre d'au-delà du désert où Moïse, le sauvé des eaux, devenu réfugié, fait paître le troupeau de Jéthro, Kénien de Madian, père de Séphora, qui lui a donné comme femme et de 6 autres filles encore. Moïse a demandé à Séphora, son épouse, d'appeler leur premier fils Gershom, ce qui signifie « immigrant là-bas ». Une façon très existentielle pour Moïse de dire qu'il se sent toujours déraciné. D'abord, bien sûr, originellement, en tant que fils arraché à ses racines familiales hébraïques, puis déposé dans une corbeille, enfin vous connaissez toute l'histoire, hein, mais ses racines, elles continuent d'être dans le pays là-bas, comme des buissons du désert nuisibles qu'on assèche par des tâches inhumaines. Parce que voilà, ils prolifèrent trop, ces Hébreux. Ils sont une menace pour les plantes natives, disent certains Égyptiens radicalisés par la crainte d'être débordés. Un discours qui n'a cessé d'être transposé en des lieux et des époques jusqu'à notre actualité encore. Moïse avait été repêché dans le Nil et hanté à l'arbre le plus majestueux du pays, la famille même du Pharaon, qu'on dit descendant de Dieu. Et puis il avait dû fuir, incompris et craint des Hébreux, menacé par le Pharaon. Le voici donc, lui-même étranger là-bas, Gershom, dans une terre dont il doit apprendre à connaître aussi les repères et la spiritualité. Heureusement, le hasard, l'a fait rencontrer une famille généreuse et priante. Jéthro, qui est prêtre en Madian. Et il n'est pas impossible du tout que ce soit Jéthro qui lui ait parlé de la montagne de Dieu près de laquelle il mène son troupeau. Cette même montagne qui bien plus tard va s'embraser de tout le sommet et où seul Moïse pourra monter pour recevoir les tables de la loi, les mots qui guident et font vivre. Il s'est troublant ce Jéthro et son peuple de Kéniens. On ne sait pas grand-chose d'eux, sauf que quelquefois ils ont été liés au destin des ancêtres d'Israël, un peu comme Ismaël l'a été pour Isaac. Jéthro lui-même semble en savoir au moins autant à ce moment-là que Moïse sur le Dieu des Pères, voire davantage. Son hospitalité témoigne aussi pour lui de sa connaissance de Dieu et en faveur du fait que Dieu ne se sent pas étranger dans les épines du désert. Alors voilà, Moïse lève les yeux et voit un buisson en feu. Alors il chausse ses lunettes, hein, celles qu'il met pour trouver les tiques dans les pattes des moutons, et il constate que le feu habite le buisson, mais ne le dévore pas. Celui-ci, tout modeste qu'il soit, reste vert, debout, en étendant ses branches vers le ciel. Manhou, qu'est-ce que c'est que ça ? Se demande Moïse. Et depuis, la littérature midrashique juive foisonne de commentateurs qui essayent de lui répondre, éclairés par la lumière de ce feu dans le buisson. J'ai retrouvé un extrait cité par Rashi, un savant célèbre du XIe siècle. Un juif érudit de France qui a très bien su discerner dans la pépinière des parchemins d'écriture sainte des chemins qui vont relier depuis les racines jusqu'au fait Dieu et les humains. Ainsi, interpellé par la question « Pourquoi donc un buisson d'épines ?», Rashi nous dit que Rabbi Eliezer répond « Parce que le buisson d'épines est le plus humble de tous les arbres. » Et Israël, le plus humble des peuples. Dans son dénuement et son exil, et en pensant à ses ancêtres, Moïse ne pouvait qu'attester la vérité de cette parole. Et je pense que tous ceux qui peuvent s'identifier à cela et je pense à tous les gens jetés sur les routes en exil aujourd'hui, comprennent aussi cela. Vient ensuite la question brûlante, de quel feu est-il visité, ce buisson tout fragile et humble, pour ne pas être consumé justement ? Oh, les commentateurs rabbiniques ne répondent pas à la légère à cette question, car ils en ont connu des feux qui détruisent, depuis l'époque de Moïse jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne le peuple juif et par extension tous les peuples ou ethnies traités comme des ennemis, des boucs émissaires. Nous sommes témoins de tout cela. Il y a par exemple le feu bactérien de la peur de ce qui est différent, faisant flamber la haine, l'exclusion, les pogroms de toutes sortes. Ou bien le feu de la jalousie et de l'orgueil, même chez les bien religieux. Ou, à titre personnel, le feu d'une maladie qui empoisonne de l'intérieur les arbres magnifiques que nous sommes. Et chaque fois flambe la question qui brûle le cœur et les lèvres. Il est où Dieu ? Mais pourquoi il laisse faire ? Alors le texte de ce matin vient pour nous dire qu'on aurait tort de chercher sa présence hors du buisson. Oui, on a chanté par-dessus, mais Dieu là, il s'approche beaucoup, beaucoup. Rabbi Nachman, accroché contre vent et marée à ses racines de foi, répond quant à son tour, le buisson reste vert parce que la douleur est en Israël, mais Dieu ne veut point qu'elle consume Israël. Alors Rabbi Bertrand, en suivant ce matin le fil de la pensée de Rabbi Nachman, se demande si Dieu ne s'identifie pas tellement à la souffrance de celles et ceux qu'il a appelés à la vie que l'on peut dire que la douleur est en Dieu aussi. Les paroles qui suivent en témoignent. « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. » C'est fort ce mot. « Je suis descendu pour le délivrer. Je désire le conduire dans un pays où pousse une herbe assez drue pour faire couler du lait du pis du bétail et des plantes assez riches en pollen pour émoustiller de nombreuses abeilles. » Ce feu qui brûle les entrailles de Dieu, un feu d'amour, de compassion et de justice, il a besoin de sortir, il a besoin d'être communiqué, partagé. Alors Dieu envoie son messager, son ange, et on sait que le messager et Dieu, ils sont proches comme la fumée et le feu. Moïse s'est probablement déjà forgé avec ses circonstances de vie un caractère bien trempé, ce qui pourrait expliquer qu'il ne semble pas impressionné outre mesure par ces flammes. Oserais-je dire qu'il n'y voit que du feu ? Il considère en fait le phénomène avec une curiosité scientifique. Il désire faire le tour du buisson comme on fait le tour de la question, au risque justement de passer à côté d'un Dieu qui vient le rencontrer en réalité. Et ça, je crois que c'est un danger pour tous les gens qui pratiquent la théologie. Alors dans le feu, Dieu s'échauffe. Et le buisson, qui a vraiment beaucoup de présence, se met à parler et à remonter les bretelles de Moïse. Il lui rappelle que si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, eh bien la sagesse, elle commence pas uniquement par l'érudition, mais par l'écoute, plutôt que par une observation qui va objectiver l'autre. La vue ne suffit pas. La parole, le dialogue et un grand respect sont nécessaires pour passer de l'expérience sensible à la relation et même au croire, à la confiance. Même si le feu squatte un végétal maigrichon et épineux, ce buisson-là, ici et maintenant, n'est pas n'importe qui. Moïse se tient sur un sol sacré. Alors Moïse, écoute, ça entre, ça marche, les sandales en moins. Moïse sait peut-être déjà qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. En tout cas, à ce moment-là, il détourne les yeux avec une certaine crainte. Mais la présence dans le buisson, elle lui parle au sens très fort. Et je prie qu'il en soit de même avec chacune et chacun de nous. Il l'appelle par son nom, ce qui témoigne du fait qu'il le connaît parfaitement et lui adresse vocation. Une vocation toute chaude. Et je crois que nous pouvons tous être des Moïse. Mais là, avec Moïse d'abord, ça marche moins bien. Il semble presque moins effrayé d'être en présence du Seigneur que par le contenu de la mission qui lui est proposée. Ben oui, nous l'avons vu, Dieu lui confie que ses entrailles sont toutes remuées par la souffrance de son peuple. Il lui adresse la vocation d'être messager auprès d'eux d'une bonne nouvelle. Et Dieu va les conduire hors de leur prison égyptienne. Et puis pour le nouveau pharaon, Moïse sera ambassadeur afin d'obtenir, de négocier leur sortie hors du pays. Mais là, à défaut de tourner autour du buisson, Moïse tourne autour du pot. Il se dévalue avec l'humilité douteuse d'un gars qui cherche à se défiler. Nous n'avons pas encore eu souvent l'occasion d'être présentés, mais je vois que tu me connais par mon nom. Ça me touche, bien sûr. Et puis tu connais bien mes compatriotes, et même le pharaon d'Égypte. Hein. Mais alors, sauf tout le respect que je te dois, Seigneur, permets-moi de te demander si tu m'as bien regardé. Parce que qui suis-je, moi, le déraciné ex-binational en fuite, pour avoir autorité, pour convaincre et faire bouger toute cette équipe? Je vois, répond Dieu. Le signe pour toi, c'est que vous arriverez tous ici et vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Ah bien, ah ben formidable pour moi, hein. Merci. Mais Seigneur, en fait, je dois te confier que c'est eux qui m'inquiètent. Je les connais pas trop mal aussi. Ouais, je les entends déjà quand je vais arriver. Tiens, un revenant, c'est gentil de venir nous voir après tes longues vacances. Quant à ta proposition, nous apprenons donc que ce Dieu de nos pères, comme tu l'appelles, qui nous a laissé être traités comme des buissons qu'on piétine et laisse cramer au soleil pendant des années et des années, se soucierait tout à coup de nous. Ah ben ça, c'est gentil de sa part. Mais rappelle-nous quel est son nom, parce que nous, on a un peu oublié, hein, on demande à voir. Alors Moïse dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais quel nom vais-je bien pouvoir leur donner, moi? Tu ne leur donneras rien du tout, Moïse, parce que c'est « je serai celui qui suis là-bas ». Je serai là, présent ces paroles de mise en marche, pour les guider. Je désire qu'ils me rencontrent comme tu me rencontres, qu'ils me fassent confiance comme je te demande de me faire confiance. Je suis votre Créateur, dont la parole suscite la vie, comme la sève monte aux arbres et leur faire porter du fruit. Je suis, je ne serai jamais un « il » ou « elle » qu'on peut saisir ou manipuler pour en faire sa chose, sa religion, son idéologie. C'est moi qui suis le Seigneur, présent de génération en génération. Alors tu leur diras donc, « Je suis qui je serai, m'a envoyé vers vous. Écoutez-le. » Vous ne pouvez pas plus faire le tour de lui que tu ne peux faire le tour de ce buisson, Moïse. S'ils veulent me nommer, ils pourront continuer de m'appeler Éternel ou Seigneur. Je crois que nous allons arrêter là le dialogue entre Dieu et Moïse, avant que, si vous connaissez la suite, Moïse ne se disculpe encore, hein, j'ai la langue embarrassée et tout ça, et que la colère de Dieu s'enflamme vraiment. On revient au dernier sage juif qui est cité par Rashi. Il répond à la question « Pourquoi un buisson d'épines ?» C'est Rabbi Yohanan qui dit « Le buisson d'épines, est la haie du jardin et Israël la haie du monde. Le peuple appelé à sortir de captivité pour être témoin de la justice miséricordieuse de Dieu, il a manqué être consumé de nombreuses fois, presque entièrement, au point de se demander parfois si celui dont on ne peut prononcer le nom ne s'était pas détourné. Mais il est toujours là, dispersé dans le monde ou regroupé dans un pays laïque, avec parfois des prises de position qui nous étonnent. Sa non-conformité garde une force d'interpellation qui dérange toujours. Il forme effectivement un peu comme une haie entre celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et en vivent, et celles et ceux qui se tournent vers des idoles à leur image et ne récoltent que du néant. Que ce soit ce qu'on produit, que ce soit l'argent, enfin, etc. La liberté de n'avoir sur terre comme Seigneur que le Dieu qui vient nous visiter dans notre souffrance pour nous mener vers la vie, c'est notre vocation, c'est notre mission de peuple de Dieu. Que nous soyons l'olivier franc, les descendants d'Israël par le sang, ou l'olivier greffé sur l'olivier franc par la foi en Christ Jésus. L'olivier, c'est aussi un bien bel arbre. Nous en venons à Christ Jésus. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, ayons donc une même pensée et une même âme, rappelle l'apôtre Paul. La douleur est en Israël, mais Dieu ne veut pas qu'elle consume Israël. Et je me suis dit, mais la douleur est en Dieu, parce que Rabbi Yeshua a laissé derrière le rideau du ciel sa majesté divine. Il est venu dans la haie du monde comme un petit buisson sur lequel on ne force pas forcément le regard, ou comme le disait le chant, comme une rose qu'on va piétiner. Parce que s'il n'est pas venu pour consumer, c'est la douleur qui est en Israël qui l'a consumé. Homme de douleur, habitué à la souffrance, ce sont nos douleurs qu'il a portées, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, a prophétisé Ésaïe. Oui, il connaît vraiment nos souffrances et il veut nous mener au-delà, quelles que soient ces souffrances. Jésus nous libère de l'idolâtrie du moi et du conformisme aussi, à un monde qui fonce dans le mur. Il nous libère de la peur et de la haine de l'autre, de l'amertume aussi de penser que Dieu est lointain ou indifférent. Sa présence de ressuscité, par les flammes de feu de l'Esprit-Saint, nous remplit de sa compassion. Souvenez-vous de la Pentecôte. Alors nous voilà, petits buissons qui apprennent à se raser les piquants et appliquent sur leur peau irritée le baume du pardon. Nous formons une haie, pleine de beauté humble, avec cet amour qui nous fait considérer les intérêts des autres avant les nôtres, l'amour du Christ. Alors, dans le jardin, la terre aride peut se changer en terrain irrigué, où les arbres tirent leur force de l'eau vive du Seigneur. Amen.
Nous passons au temps de scène. Et je reprends une partie du texte de Philippiens qu'on a lu tout à l'heure. Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, il s'est laissé consumer. En se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est ce dont nous voulons faire mémoire ensemble, en partageant le pain et le vin, comme lui l'a fait avec ses disciples. Alors nous allons lire l'institution dans Matthieu.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en. » tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Et nous voulons prier. Oui, Seigneur, nous voilà invités à ton repas. Mais que savons-nous de ta vie, dans ce pain et dans ce vin? Que savons-nous de ta grâce pour nous? Et que vienne ton esprit? Et alors nous verrons ta présence au milieu de ce repas. Nous entendrons ta parole retentir dans l'Évangile et nous discernerons ton corps et ton sang dans ce pain et ce vin. Oui, Seigneur, que ce repas que nous allons partager soit signe de ton royaume, qu'il nous apprenne la simplicité et la confiance, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il éclaire notre regard. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ, livré pour nous.
Et la coupe de vin, pour laquelle nous rendons grâce, est la communion au sang du Christ, versé pour nous. Alors, pour la scène, on propose de rester en place, on va passer distribuer le pain et le vin. Et pendant ce temps, je vous invite à un temps aussi de prière où vous pouvez vous exprimer librement, à haute voix, si vous le souhaitez, ou en tout cas dans votre cœur. Et les coupes, comme d'habitude, au centre, et les coupes de couleur sont du jus de raisin, autour c'est du vin, et si vous désirez partager, communier à la coupe, il faut simplement faire signe et on passera. pour terminer ce temps de partage du pain et du vin, ce temps où nous nous rappelons du sacrifice du Christ, parfait serviteur, comme un exemple pour nous, mais aussi de sa victoire sur la mort, ce temps que nous partageons ensemble, communauté, rassemblée en son nom. Je vous invite à chanter ce chant qui dit « Jésus-Christ est Seigneur ». Continuons avec un temps d'offrande, un temps où on peut donner, rendre à Dieu ce que nous avons à cœur de remettre entre ses mains, comme un signe de reconnaissance, mais aussi pour que cet argent puisse être utile à son service, en Église, comme au loin, auprès de notre prochain, ici ou au loin. Nous allons chanter le Notre Père pendant ce temps. Mais c'est la version d'Exo, je ne sais pas si elle est connue. Alors vous pouvez la chanter simplement ou l'écouter, la prier, la méditer. Et pendant ce temps, nous allons passer les pochettes.
sois sanctifié.
Que ton règne vienne,
vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel.
Aujourd'hui
et demain,
pardonne-nous
nos offenses,
comme nous les pardonnons
à tous ceux qui nous ont offensés.
Pardonne-nous.
Nos offenses,
comme nous les pardonnons
à tous ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas
à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire.
Le règne,
la puissance, le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur, nous t'avons remis cette offrande. Tu nous donnes vocation de partager le meilleur de notre vie, de même que cet argent puisse aboutir là où il est nécessaire et que tu puisses faire fructifier ce don que nous avons fait. Amen.
Voilà, on est au temps des annonces. Je ne sais pas si, pour la paroisse protestante, y a-t-il des annonces ? Dimanche prochain, le culte pour vous est au...
C'est dans la région.
À Châtelaine, voilà. Ok. Pour l'Église évangélique, je dois tout d'abord vous faire part du décès du papa de Jessica Dupertuis. Nous voulons vous assurer, Joël, Jessica, de toute notre sympathie et de nos prières. Dimanche prochain, le culte est ici. L'orateur sera Claude Bécher. Et puis, ce sera le culte de reprise pour les potes du dimanche. Donc, le culte de reprise pour tous les enfants. Et puis, je veux encore vous signaler la date du samedi 10 septembre où nous organisons, nous proposons un samedi matin de prière de 9h30 à 11h30. Ce sera autour de la vie de l'Église, partage. Et puis, à partir du partage, des échanges que nous aurons, des temps de prière ciblés sur différents aspects de la vie de l'Église, un programme suivra d'ici une semaine, je pense. Voilà. Je laisse.
Ah oui.
Oui, effectivement, le culte à Châtelaine dimanche prochain, c'est aussi mon dernier culte sur la région Rhône-Mandement, puisque ça fait 15 ans que j'avais commencé en 2001 à la paroisse de Vernier et de travailler sur cette région, et que vous avez déjà vu ma tête quelquefois se promener par là, enfin avec le corps en dessous quand même. Et puis bah oui, ça fait quelque chose de partir, et je sais que plusieurs d'entre vous m'ont dit aussi quoi que ça les touche, et sachez en tout cas que je ne vous oublierai pas. Ça sera peut-être possible que je vienne encore quelques fois là, oui, sinon Sylvie serait très fâchée. Et puis bah dimanche prochain, même si c'est plus forcément le thème des arbres, je vais encore parler d'un arbre, mais dans la portion la plus congrue qu'on puisse trouver. Puisque là, on était déjà au petit buisson du désert, là, on va encore rapetisser pas mal. C'est quand Moïse lâche la colombe par la fenêtre de l'arche, et puis qu'elle revient en tenant dans son bec... Non, et j'ai dit qui, moi ? Moïse, oh, pardon, ouais, je suis trop pénétré de mon sujet d'avant. Elle tenait dans son bec un frère rameau d'olivier. Le début d'une vie possible. Voilà. Ça sera une belle manière aussi de dire au revoir à tout le monde. Voilà, je crois qu'il reste la bénédiction. Hein. Oui. Tu peux me tenir mon petit classeur, alors, oui. Oula, non, ça va. Oui, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Je la prends aussi dans l'Épître aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.